Éther et Crac. Radio Campus Paris. 93.9. Un lundi sur deux. De 22h à minuit.
Il est 22h et vous êtes à l'écoute de Campus Paris dans l'émission Éther et Crac. À l'instant, on vient d'écouter un morceau de Pierre et Bastien, Alcool, qui est extrait du dernier album qui vient de sortir il y a une semaine, à tout casser, sur Poitiers-Platon. C'est un groupe qu'on avait fait jouer en octobre dernier, composé de Trux qui joue dans Tits, non, qui... je sais plus dans quoi il joue, de Baptiste qui joue par contre lui dans Tits, et de Paul qui joue dans les Bavarians auparavant, donc ça reste dans la veine des premiers 45 tours du punk de guitare à une batterie assez simple et rentre dedans, avec des paroles assez géniales, et une pochette qui est à mi-chemin entre Chaos en France et des études trotskistes des années 80. Et ce soir, on reçoit Fred, Spectrometers.
Bonsoir.
Et le Sonic Protest qui arriveront un peu après pour présenter la 10e édition. Donc il va y avoir un live d'ici 5-10 minutes.
Oui.
Et c'est parti.
Et c'est parti. Donc comme l'a dit Maxime, on reçoit Spectrometers, qui est un projet musical commencé en 2008 et mené par Fred Duverger. Un homme masqué, des clichés brumeux en noir et blanc, des machines, très peu de concerts. de rares interviews et quelques sorties, à chaque fois sous des formes différentes, allant du kit clé USB gants latex au traditionnel vinyle. Il jouera lui aussi au Sonic Protest aux côtés de The Red Label, Action Beat et The Rustler samedi 12 avril à La Parole Errante. J'ai dit quoi ?
Red Label ?
Ah non, pas du tout.
The Rebel, Action Beat.
Et The Rustler ?
Et The Rustler, qui est le Russell Smith, le chanteur de. Le leader de Thermal Cheesecake qui fera un set de funk.
Petite coquille rattrapée habilement par Maxime, merci. Oui, Fred, au départ, un projet studio qui commence peu à peu à prendre de l'ampleur et de la visibilité grâce à quelques rares concerts. On retient ta présence dans la programmation de l'Étrange Festival aux côtés de Scorpion Violente en début d'année, ouais. Plasto Béton, Dick Vaudou, encore Marc Hurtado, présent d'ailleurs lors de la dernière édition du Sonic Protest.
Plus précisément, c'était avant Marc Hurtado, oui, effectivement.
Tu jouais avant Marc Hurtado aussi ?
Oui, c'était la même soirée. Ouais. Après Scorpion Violente, on jouait un autre jour, je crois. C'était la. Je sais plus combien de jeux. Enfin, c'était pas la même soirée.
C'était pas la même date, quoi.
Ouais, c'était pas la même date. Mais effectivement.
Est-ce que c'était l'un de tes premiers concerts sous. Enfin, cette formation Spectrometer, ou t'en avais déjà fait d'autres avant ?
J'en avais fait d'autres, mais c'était. C'était sous le même nom, mais c'était pas tout à fait avec les mêmes composantes. Il y avait des guitaristes, voilà. Mais des concerts, j'en ai fait plus qu'on ne croit.
Mais sous des noms différents avec
Sous des noms différents, forcément, mais. J'en ai fait avec des guitaristes et j'en ai fait plus à l'étranger, par exemple. À Paris, effectivement, je n'en ai pas fait beaucoup.
D'accord, j'ai entendu dire que tu en avais fait à Londres aussi.
Oui, j'en ai fait après le premier album, entre 2008 et 2009, j'étais effectivement plus dans l'est de Londres qu'à Paris.
Tu vivais là-bas ou tu
Non, mais c'était, j'étais en contact avec un label et c'était en fait... Un petit mouvement, il y avait 2-3 groupes qui tournaient dans le quartier de Shoreditch et je suis tombé avec eux, je ne sais pas trop pour quelle raison, mais je me suis retrouvé à faire des concerts là-bas, très enrichissant et très, vraiment j'étais un peu... dans mon élément, parce que c'était des concerts à chaque fois assez particuliers, des concerts dans des églises. La Witch Chapel Gallery, qui est une galerie d'art contemporain. Enfin bon, c'était à chaque fois un peu des endroits un peu
décalés à chaque fois.
Un petit peu, ouais.
T'étais un peu dans l'esprit de Sonic Protest, du coup.
Tout à fait.
Ça tombe bien, c'est la soirée Sonic Protest.
Il y a une identité visuelle extrêmement forte. À base, j'en ai parlé vaguement tout à l'heure, de photos expérimentales qui renforcent un peu l'aspect énigmatique de ce projet qui a peu de concerts, quasiment aucune info quand on cherche sur internet. Sur les photos que j'ai regardées pour décrire, parce que malheureusement à la radio on peut pas avoir d'image, on découvre plusieurs photos, donc lorsqu'on tombe sur les rares infos qui te concernent sur internet, où c'est des photos en noir et blanc, très floues, il y a un personnage récurrent, on ne sait pas trop qui c'est. En tout cas, c'est un homme.
Peut-être que c'est pas ce qui. C'est un. C'est on va pas... dire que c'est un spectre, peut-être. Ou... non, en fait, c'est plus. Oui, à la base, c'était des univers visuels qui étaient forcément un peu entre guillemets culturels, qui étaient peut-être issus de résidus un peu surréalistes que j'avais pu. Il n'y avait pas de signification particulière à part peut-être celle de vouloir effacer peut-être le côté effectivement la personne quoi,
ça donne un aspect un peu intemporel anonyme, voilà, en même temps c'est un peu référencé quand même, un peu je sais pas ce style de photo c'est un peu de la photo expérimentale, moi ça me fait penser à, je sais pas si tu connais un réalisateur qui s'appelle Guy Madine.
Oui,
c'est un peu cet univers-là. Bon, lui, il y a plus de couleurs, ça dépend.
Ouais,
mais
ouais.
Un peu enfin, c'est des vieilleries comme ça.
Un peu. c'est un petit peu évolué depuis. J'ai fait plusieurs tentatives. Puis aussi, comme j'ai communiqué beaucoup avec l'Internet sur la musique, j'avais aussi des. des gens avec qui je partageais des choses comme ça visuellement. Voilà, il y a des gens qui ont... La pochette du 25 cm a été faite par une personne que je connaissais pas en fait. Ça a été fait comme ça, par correspondance.
Ah ouais, d'accord.
Voilà, c'est... la partie visuelle en fait navigue un peu et évolue comme la partie musicale.
D'accord.
Donc ça restera pas aussi.
Ça restera pas figé.
Ça sera peut-être, je ferai de la couleur un jour. Ça...
Ah, on attend.
Tu dis aussi que ton projet musical, donc The Spectrometer, c'est bien. On dit le The ou pas?
En fait, au début, c'était The Spectrometer. C'est en fait plusieurs fois, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je me justifie parce que il y avait un problème avec The Spectrometer, c'est le fait que je sois tout seul. Donc,
c'est pas grave.
Bah ouais, mais bon, fallait un peu. Tu vois, ça, des fois, je remets un peu. Mais non, en fait, mais alors pourquoi pourquoi The si c'est pas un groupe? Non, c'est pas forcément un groupe. Donc, j'ai réduit au Spectrometer pour y a un côté un peu plus. Rapide.
Tu parles d'un spectre en fait qui peut recouvrir plusieurs registres, plusieurs. Moi je me disais que ça pouvait aussi recouvrir plusieurs influences un peu musicales, mais aussi plusieurs registres. Donc on a parlé de la photo, de fort aspect visuel qui est dans ce projet justement. Toi tu parles, il me semble, du cinéma et de la littérature, dans ce que j'ai lu en tout cas. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer en quoi. C'est au carrefour un peu de tout ça.
Ben, en fait, moi, ce qui me plaisait, enfin, ce qui me plaît en général, c'est effectivement tout ce qui peut paraître paradoxal ou les ambiguïtés ou les choses qui vont d'un point à un autre. En fait, c'est vrai que le côté spectre, c'est vraiment une manière de balayer en même temps la lumière et l'obscurité, quoi. Il y avait un côté. Donc en fait oui c'était censé être un moyen de naviguer ou de dériver selon la saison.
D'accord. Alors là on parle beaucoup de musique, enfin on a parlé des choses qui concernaient pas directement la musique aussi dans Spectrometers, mais on en parle et on a un peu envie d'écouter.
Bah oui.
Alors je te propose de nous la jouer un petit peu pendant les 20 prochaines minutes. Voilà, donc dans quelques instants, si tout le monde est prêt, on va écouter un live de 20 minutes de Spectrometers. À tout à l'heure et bonne écoute sur Ether et Crack. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris dans l'émission Éther et Crac. À l'instant, vous venez d'entendre un live de Spectrometers, notre invité de ce soir. Rebonsoir Fred.
Rebonsoir.
Ça va? Tu,
ça va bien,
tu
oui,
sors de...
Je sors du spectre.
Tu sors du spectre. Qu'est-ce que tu nous as joué pendant ces 20 minutes? Est-ce que c'était des extraits du dernier album que tu as sorti?
Alors là, il n'y a pas eu d'album. C'est plutôt ce qui devrait... s'il y en a un qui sort, ouais, ce serait un peu l'esprit. C'est les derniers morceaux, en fait.
D'accord.
Donc je trouvais un peu opportun de faire un peu les morceaux qui seront présentés lors du Sonic Protest.
Bien vu. À propos de sortie, si on regarde un petit peu ce que tu as fait jusqu'à présent, alors il y a une cassette, un vinyle, ouais. T'as sorti aussi une clé USB plus un gant.
Un 10 pouces aussi.
C'était... Et un gant avec 10 pouces. Ouais.
Et du coup, dans quelle mesure la variété des formats, c'est important pour toi? Est-ce que c'est important déjà pour toi, ou est-ce que tu as fait ça par pur hasard?
Il n'y a jamais de hasard, je pense, mais en fait, c'est vrai que ça s'est aussi présenté un petit peu comme ça au départ, c'est-à-dire qu'il y a eu des contacts, il y a eu effectivement un premier disque, ensuite... je ne pouvais pas faire non plus tout le temps des disques, alors c'est vrai que ça a occasionné des nouveaux types de formats qui permettaient de faire des quantités plus petites pour une diffusion un peu plus légère et continuer à produire sans prise, trop de prise de tête. Quoi. Donc ça, c'est vrai que ça a éveillé un petit peu des petits objets un peu bizarres comme cette boîte.
Du coup, c'est de l'autoproduction ou tu passes...
C'était de l'autoproduction, ouais. Je passais d'autoproduction à des vrais d'autres productions.
Voilà. Du coup, oui. Comment t'es venu cette idée, du coup, de la petite boîte, de la clé USB et du
En fait, c'est un peu dans l'histoire de... Excuse-moi. C'est un peu dans... C'est la suite de ce qu'on... Du sujet sur l'image et tout ça, en fait. C'est vrai que c'est des espèces d'évocations lancées au travers d'un spectre, et après chacun la voit un peu comme il veut. Donc c'était une boîte, le titre c'était Make Your Own
Instrumented
Glow. Donc voilà, il y avait une petite clé que j'avais pris soin de tout dénuder pour qu'on voit les circuits et donc ce gant, en fait, en latex faisait une espèce ça faisait une espèce de petit bijou posé dans son écrin, sauf que une fois que tu prenais l'objet, il y avait un petit côté, le gant, ça a toujours un petit côté répulsant, ça livrait un sentiment ambigu, c'est vraiment le truc le truc un peu entre deux eaux.
On s'est dit avec Ben en voyant l'image de cette boîte avec une clé USB et un gant en plastique, enfin en latex, que ça ressemblait un peu à un kit de l'expérimentateur musical. T'es d'accord ou pas? Enfin, on ouvre la boîte, là on met ce gant, on branche ça dans son ordinateur, enfin on s'est dit que c'était peut-être un petit clin d'œil à ce qu'il y avait justement à l'intérieur de cette clé.
Oui, c'était c'était un petit kit, comme si tu participais aussi un petit peu à l'expérience, quoi. C'était un petit jeu, quoi, entre guillemets. Savoir si déjà dès le départ, à travers l'objet, le visuel, etc., si tu étais sensible à l'aspect, tu pouvais être sensible effectivement au son.
Et il y a un autre truc, c'est, tu vois, aujourd'hui, tes collègues, on va les appeler comme ça, ou les gens qui font des musiques qui ressemblent un petit peu aux tiennes, c'est-à-dire des musiques un peu aventureuses, où ça touche à l'expérimentation, à la répétition, à l'improvisation, privilégient souvent des formats comme la cassette et aussi le vinyle. Bon, ça, c'est le format.
Oui.
Et toi, t'as sorti un truc sur une clé USB. Alors, je sais pas, c'est un format qui est absolument pas noble aujourd'hui, parce que
oui,
pas rare, parce que...
Oui.
Est-ce que... je sais pas, est-ce que c'était vraiment volontaire? Est-ce que tu as un petit peu réfléchi ou...
En fait, j'aime bien, ouais, j'aime bien un peu tout ce qui est récupérer, tout ce qui est un peu le côté ready-made, le côté, voilà, je mets un truc de côté, je le transforme, je lui donne une autre valeur. En fait, oui, c'est vrai, effectivement, c'est un truc...
Aujourd'hui, ça dénote beaucoup,
USB,
tu vois.
La clé USB, c'est un truc pourri, mais en fait, elle était présentée de manière... ouais, comme si c'était pourri.
T'as résumé ma phrase.
Non, mais c'était le manière de la mettre dans un petit écrin et de dire, bah voilà, un truc pourri, pas forcément, il peut contenir aussi d'autres choses, quoi. Hein. Je dis pas que ce qui est à l'intérieur n'était pas pourri, mais...
Et du coup, le contenu de cette clé, c'est quoi? Tu peux nous en dire un peu?
Bah, il y avait beaucoup de titres. C'était l'avantage, en fait, de ce format, c'est que je pouvais, ouais, je pouvais mettre, je sais plus combien il y en avait, mais un bon paquet. Et j'avais mis aussi des images. Donc, j'avais reconstitué une espèce d'histoire à la base pour tout te raconter, mais bon, ça...
Ah, mais vas-y.
J'ai fait une petite vidéo... sur laquelle j'ai fait de la musique. Et donc, en fait, j'avais pas envie de mettre la vidéo, mais j'avais c'est ce que je te racontais tout à l'heure, c'est que j'avais pris des images de cette vidéo pour en faire juste des images. Et je trouvais ça plus intéressant d'avoir décomposé le film en images et de mettre la musique à côté. C'est-à-dire que comme ça, ça faisait un petit parcours. C'était pareil, il fallait faire l'effort de mettre un gant, mettre la clé, et puis après se faire son petit jeu à partir de musique et d'images. Bon.
D'accord.
Ouais. C'est chouette.
Et tout à l'heure, on parlait du spectre, de spectrometers avec ses plusieurs registres. On se doute que c'est peut-être un petit peu la même chose pour tes influences musicales. C'est une question que j'évite des fois, mais là, on entend pas mal de musique expérimentale, un petit peu, enfin, des influences en tout cas, des échos de la musique concrète un peu.
Oui.
Est-ce que tu as des personnes qui t'ont vraiment influencé pour Spectrometers? Et aussi, il faut le rappeler, c'est une musique qui bouge pas mal. Enfin, qui bouge, pas la musique en elle-même, mais qui est pas vraiment fixe. Par exemple, ce que tu fais aujourd'hui, complètement différent de ce que tu faisais en 2008.
Oui.
Là, tu parlais tout à l'heure du changement de son parce que si t'as une nouvelle machine, c'est un truc qui bouge pas mal. Est-ce que... voilà,
bah, ces influences... je voulais pas... C'est vrai que la musique, c'est le premier endroit où on tombe vite dans des dogmes, des
chapelles.
Puis voilà, faut faire comme si, avoir tel instrument, machin, etc. Je trouve qu'au contraire, ça, c'est des contextes dans lesquels je suis pas du tout à l'aise. En fait, je me suis rendu compte que même si j'ai des tentations, en fait, à ce niveau-là, je le refuse totalement aujourd'hui, donc c'est pour ça que je me force à changer de matériel pour évoluer, quoi, et pour pas répéter les choses, pas rentrer dans des systématiques ou finir par essayer de construire un style ou ce genre de choses, quoi. Ouais.
Il y a Arnaud et Franck qui font bazar derrière la vitre, là.
Ah oui, c'est vrai,
ils sont super impatients de faire l'interview. Non, c'est Maxime Arnaud, je crois. On va leur taper sur les doigts.
Voilà.
Donc nous, en tout cas, on est calme et on est toujours avec Spectrometers de l'autre côté de la vitre. Et on en était à parler donc des influences. On a été coupé par ces saligots. Oui, et pour en revenir aux influences, j'avais parlé aussi un peu des musiques expérimentales. Il n'y a pas que ça dans ta musique, mais en tout cas, il y en a quand même un petit peu. Et il y a un nom que j'avais lu et entendu aussi avec mes oreilles, c'est celui d'Elia Derbyshire. Est-ce que tu te sens influencé un petit peu par elle? Et si oui, est-ce que tu peux expliquer pourquoi, dans quelles circonstances, dans quelles mesures? Et la présenter aussi. Si
oui, forcément. la présenter, je sais pas. Ça va être difficile, il faut que je me concentre. Je vais la chercher très loin.
Parce que les auditeurs la connaissent peut-être pas tous.
Je vais essayer de la faire revenir parmi nous.
Ça serait chouette. En plus, la table est ronde, on va faire une petite séance de spiritisme.
Non, qui a travaillé pour les ateliers d'expérience, enfin de musique expérimentale pour la BBC dans les années 60. Ça fait partie des grosses, on va pas dire influence, mais bon, c'est quand j'écoutais ça, c'est vrai que ça m'a. C'est le genre de musique qui marque, ouais. Mmh. Ouais. Effectivement. Mmh. Après, déjà, quand j'ai découvert Dahlia Devach, quand j'ai découvert par exemple, il n'y a pas que elle dans le groupe BBC Workshop, il y a plein de personnages intéressants.
Pour expliquer un peu, le BBC Workshop, donc c'est une sorte de workshop, c'est comme un peu le GRM radiophonique.
Voilà, en plus anglais. Appliqué, ils sont rapidement tournés vers pour appliquer leur musique sur des génériques télé,
des séries,
et ils s'amusaient un petit peu plus qu'en France, où ils étaient un petit peu plus, voilà, ils s'autorisaient plus de chemin. Mmh.
Pour faire un raccourci, c'est la musique concrète en plus cool.
Faut dire ça, plus décontracté.
Voilà, donc Dahlia Derbyshire, et c'est, du coup, il y avait d'autres personnes dont j'ai oublié de parler qui faisait aussi partie de ce groupe, de cette BBC Workshop. J'en ai peut-être oublié. Enfin, il me semblait que tu voulais...
Après, c'est... Après, il y a beaucoup de... même au-delà de BBC Workshop, il y a plein de... Il y a plein de des producteurs, genre Ron Gizin, des gens comme ça qui quoi qu'il arrive, forcément, t'influencent, mais... Après, à partir du moment où t'es pas, tu n'es pas décidé à vraiment te laisser donner une empreinte par qui que ce soit, tu vois, même si t'es admirateur de certaines choses,
oui.
T'essayes aussi de prendre tes distances. Et...
Bah, bien sûr, c'est pour ça qu'au début de la question, j'ai bien dit, j'aime pas vraiment cette question sur les influences. Il s'agit pas de cataloguer ou d'énumérer bêtement les influences, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir un peu d'où vient, comment en quelques mois a été influencée la musique. On n'entend pas que ça d'ailleurs dans tes musiques. Moi, je pensais.
Ouais. Ce qui me fait plus plaisir en fait, c'est quand des gens me parlent de certains disques ou. Et me parle de potentielle influence que je connais pas. Alors là, ça me fait vraiment plaisir. Mmh. Ça veut dire que le spectromètre a fonctionné, quoi.
Le spectromètre.
Une fois, on m'a parlé d'un organe de résistance. Et la techno de Détroit et tout ça. Mmh. Et du coup,
merci, ça fait plaisir.
Je vais écouter, je connaissais pas trop, et effectivement, c'est vrai qu'après j'ai vu qu'il pouvait y avoir un rapprochement, mais en fait, les croisements, tu peux...
Et du coup, ça peut t'inspirer aussi pour après, tu te dis, ah tiens, je vais écouter, fait changer ta musique. Enfin, ouais, ça peut l'influencer à son tour.
Tout est bon pour...
on disait tout à l'heure, donc... pas énormément de concerts jusqu'à présent, ou pas de concerts connus, parce qu'apparemment t'en as fait des cachets, ou je ne sais.
Oui, bah non, bah parce que comme je communique pas beaucoup, voilà.
Mais tu t'es du coup davantage focalisé sur le studio et les enregistrements.
Oui, au départ, oui, parce qu'en plus, c'était plus les premiers albums étaient plus construits et je me servais beaucoup de logiciels, etc. Et donc en concert, c'était, c'était pas
vraiment adaptable pour le live.
Ouais, c'est voilà. C'était, les morceaux étaient plus vite construits. Voilà. Là, maintenant, aujourd'hui, dans cette configuration, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, je ne peux pas refaire un morceau de la même manière deux fois. Donc, c'est plus rigolo pour faire des concerts.
Mmh, ouais. Bah, bien sûr, c'est. Bah en fait, c'est tout l'intérêt du live.
Voilà.
Pour résumer. Cette non-présence, on va dire, sur la scène, c'était pas vain du tout, en fait. Parce que pour moi, je me dis que c'est un peu intensifié, ce halo de brouillard qu'on retrouve autour des photos. de Spectrometers, et puis est-ce que c'est un choix ou pas, cette absence? Tu as parlé tout à l'heure du fait que c'était un peu difficile d'adapter tes morceaux en live au début, mais est-ce que tu t'es dit, bah, je sais pas, ça fait partie du concept du projet Spectrometers que d'être un peu dans la brume comme ça, ou énigmatique?
Je sais pas si c'est énigmatique. En fait, je sais pas si c'est énigmatique ou si c'est la conséquence d'une volonté de pas trop apparaître. Voilà. J'ai pas trop réfléchi.
Tu as pas réfléchi.
Non. En fait, je pense que c'est plusieurs éléments combinés qui donnent cette impression. Après. C'est vrai que je cherche pas spécialement
à être rare.
Non.
Mais du coup, tu le seras plus tant que ça, rare, parce que tu vas jouer donc au Sonic Protest. Et est-ce que tu as des dates encore qui sont prévues pour l'avenir après
Non, pour l'instant, non. Non. Je ne ferai que le Sonic Protest.
Et c'est tout. En fait, ils t'ont demandé l'exclu, c'est ça?
Voilà, ils m'ont...
Celle. À tout de suite. Merci Fred.
Check nur für dich.
toujours à l'écoute d'Ether et Crac. Il est bientôt 23h et nous venons d'écouter une interview et un live de Spectrometers qui jouera donc au Sonic Protest, dont nous recevons les deux têtes pensantes et fondateurs ce soir, c'est-à-dire Arnaud Rivière et Franck De Guengo.
Bonsoir.
Bonsoir Arnaud. Salut. Bonsoir Franck.
Bonsoir.
Bonsoir Camille. Bonsoir Benjamin.
On est toujours
Maxime,
avec
Bonsoir Benjamin. Ambroise. Bonsoir Fred. Bonsoir Fred. Les auditeurs. Bonsoir Franck.
Salut.
Louis, le Sonic Protest Festival, dont la 10e édition se déroulera du 4 au 13 avril 2014 à Paris, Montreuil, en province, mais aussi en Belgique, encore aux Pays-Bas, et j'en oublie peut-être. Le Sonic Protest, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, c'est un festival des fricheurs proposant des concerts, des fricheurs, je sais pas si ça vous plaît, ça va.
Vas-y, fonce,
c'est bien.
Proposant des concerts, des expositions, des installations, des conférences ou encore des ateliers, ayant pour point de jonction une réflexion sur le sonore, entre guillemets. Sans barrière ni a priori, il s'agit de proposer une programmation musicale éclectique et exigeante, au carrefour des musiques improvisées, de la pop ou même de la chanson, de la noise. Le tout dans des lieux atypiques, parmi eux la fameuse église Saint-Méry qu'on retrouve presque chaque année, le cirque électrique, le centre Barbara aussi cette année, et puis j'en passe encore. Donc, rebonsoir Franck et Arnaud. On voudrait être un petit peu au courant de votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé à créer le Sonic Protest? Et c'est la 10e édition cette année. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce premier week-end de Saint-Chaviré et aujourd'hui, ce festival qui se passe sur plus de 10 jours et qui recouvre un tas de lieux différents, qui sort même de Paris jusqu'en Europe? Voilà, parlez-nous un peu des débuts du festival.
Eh bien, au début, on faisait des choses chacun dans notre coin, et puis on s'appréciait.
De loin, comme ça. Mais...
Et on avait eu envie de faire des choses ensemble, à un moment donné.
Qu'est-ce que vous faisiez chacun dans votre coin?
Alors, Arnaud Rivière, vous étiez programmateur de cette salle à Montreuil, les Instants Chavirés.
On se tutoyait à l'époque, en revanche.
Oui, mais depuis, on a appris
les distances. Quoi.
C'est étrangement, moi, j'entends le son très saturé. Enfin, c'est peut-être que mon casque.
J'ai demandé un son un peu bruitiste.
Enfin, c'était le casque de Spectrometers, c'est pour ça que ça peut juste s'aspect là. Ouais, effectivement, on était aux trois coins du terrain, dans une sorte de truc qui n'était pas vraiment un rectangle, un triangle donc, et puis on faisait déjà des choses deux par deux sur ces trois-là, le troisième étant Benoît Sonnette qui faisait le label Textile Records. Et donc Franck et Benoît faisaient des choses ensemble, je faisais des choses avec Franck et je faisais des choses avec Benoît. Et de manière séparée comme ça, il y a un moment c'était un peu ridicule puisque on se retrouvait très souvent à faire chacun des choses dans notre coin. Et donc assez manifestement on avait envie de faire des choses tous les trois ensemble et puis on ne trouvait pas vraiment le format exact pour commencer. Et il y a ce groupe culte, mythique, magnifique, magique qui s'appelle les Reynolds qui vient d'Argentine. Qui est un trio
Bravo.
Assez exceptionnel, qui venait en Europe pour la première fois et qui n'est pas revenu depuis, donc c'était vraiment une fois et jamais. Et puis ça a été le feu c'est ce qui a mis le feu aux poudres pour qu'on commence réellement à faire quelque chose tous les trois. On n'avait pas d'idée préconçue sur ce que ça devait être, mais on savait que c'était plutôt dans l'idée de faire quelque chose de rigolo ensemble. Ce qui reste encore le cas 10 éditions après.
C'est voilà. Rigolo encore ?
Ouais, bah oui.
On n'arrête pas de rigoler.
Ouais.
C'est ce qui nuit très gravement à l'efficacité de l'affaire. Ça nous prend un an en fait à monter une édition. Ce qui, au bout du compte, au regard de ce qui est fait maintenant, est à peu près légitime. Puisqu'il y a une exposition, 10 jours à Paris, 17 autres concerts ailleurs, comme tu notais qu'il y avait des concerts dans d'autres villes. Voilà, tout ça demande beaucoup de temps. Il y a aussi maintenant des activités qui sont portées à l'année par le festival, par la structure du festival. L'association Sonic Protest existe en dehors de Festival Sonic Protest et porte des ateliers qui se diffusent dans des lycées, dans des hôpitaux, dans des écoles d'art par exemple. Et puis on a accompagné des projets de production avec des artistes. Donc maintenant voilà, c'est plus qu'un couteau suisse quoi. Ça commence à devenir assez large les activités de l'association.
D'accord. Et honte à moi tout à l'heure, j'ai oublié de de désannoncer le titre qu'on a écouté juste après l'interview de Spectre Metteur. Est-ce que vous pourriez nous en parler, Franco Arnaud?
C'est KG, en fait, qui va jouer, qui sort un nouvel album. On n'avait pas eu de nouvelles depuis un bout de temps. C'est un projet qui date des années 90, de monsieur qui s'appelle Rémi Bux, qu'on a pu entendre dans des groupes comme Sun Plexus ou Ishbin.
Oui. Et, qui ont joué au Sonic Protest, Ishbin, Sun Plexus.
2005-2008.
Ouais. Et il n'avait pas fait d'album depuis un bout de temps. Il y a un album qui sort sur Hersfeld. On a entendu parler de ça. On lui a demandé si ça l'intéresserait de faire un concert de la scène. Il a monté spécialement un groupe pour ce concert. Il y en a d'autres dans la série, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et là, c'est un extrait, c'est le premier morceau du nouvel album.
Tu disais...
Passage secret.
Monter un groupe, c'est arrivé plusieurs fois, ça, non? Que des projets se forment spécialement pour le Sonic Protest ou reprennent vie. Je pense à même Plasto Béton, l'an dernier, ils ont joué au Sonic Protest, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient rien fait ensemble. Ils se sont dit, ah, chouette, un concert, on va se remettre à jouer.
C'est rigolo de voir que Plasto Béton rejoue depuis ce concert. Effectivement, ils n'avaient pas joué depuis quelques années. C'était plutôt une affaire relativement enterrée pour eux. C'était pas splitté, quoi. C'est juste qu'en fait, personne ne leur avait fait voir qu'il y avait de l'envie. Et puis, réécoutant nous de notre côté ce qu'ils avaient déjà produit avec plaisir, on s'est dit que c'était la bonne tonalité pour la soirée qu'on imaginait l'an passé. On passe pas mal de temps en général à réfléchir à comment on aimerait que les soirées se déroulent, que ça passe d'un endroit à un autre musicalement, en passant par certains détours. Enfin, on imagine comme ça des parcours sonores. Et puis, Plasto Béton, ça nous semblait assez indispensable, nous, de pouvoir montrer ce boulot-là. On aime bien cette... connexion là de l'Est français, qui de Metz à Mulhouse en passant par Strasbourg donne une certaine couleur, quoi. Enfin, très nettement, il y a une identité de ce coin là et puis Plasto Béton a vraiment un truc très particulier. On a Plasto pour les intimes plutôt que béton Et puis on avait envie de voir avec eux, mais on évite le fantasme total de programmateur de se dire ah ouais, ça serait génial si Elvis pouvait jouer avec Yoko Ono.
C'est vrai que ça serait génial.
Ça serait assez génial à mon avis. Mais
je sais pas.
En tout cas, on se l'interdit. Voilà, des fois, il faut avoir des tabous quand même. Et ça, on va pas jusque là. On propose des choses aux gens et c'est à eux après de c'est eux qui font le boulot. Surtout, c'est eux qui sont sur scène. Nous, après, c'est peinard. Une fois qu'on a eu la chouette idée, on n'a plus qu'à regarder. C'est eux qui sont sur scène, donc c'est à eux de faire le concert. Et par là, ça fait aussi que ça reste des bonnes idées potentielles. Et puis après, c'est au groupe à eux d'assumer le truc s'ils ont envie de le faire.
Mais là, typiquement, avec KG, on a eu l'info qu'il y avait un nouvel album, donc on a sauté dessus. Et c'est pareil aussi pour Terminal Cheesecake, qui est un groupe qui va finir... qui finit pas le festival, parce que le festival ne s'arrête pas le 12 avril, mais le 13. Mais la série des concerts, on va dire, et Terminal Cheesecake, pareil, un vieux groupe des années 90 dont on n'entend plus trop parler, et puis on a entendu dire qu'ils étaient remontés sur scène. On allait se renseigner, ça sonnait très très bien, et voilà, on les a contactés.
D'accord.
Et du coup, pour rebondir sur les questions de programmation, après toutes ces éditions, en fait, comment se déroule votre travail de prospection, en fait? Ça vous fonctionne au coup de cœur, ou par rapport à vos coûts personnels, comment vous programmez?
Avec cœur.
Avec cœur, les gens nous proposent des projets.
Que nous refusons. Non, c'est pas... non, la programmation se fait très 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 peu, voire même pas du tout, par le fait qu'il y ait des propositions qui nous sont faites. Enfin, très nettement, je crois qu'il y a
ça
eu
fait
une
très
fois.
Peu de temps qu'on nous propose aussi.
Ça fait peu de temps qu'on nous propose des choses, on n'est pas encore habitué.
Voilà.
Donc du coup, puisqu'on n'a pas envie de changer, on refuse comme ça en bloc. non, il y a très très peu de choses comme ça qu'on va... Okay. Il se trouve quand même qu'il y a ces 10 éditions de Sonic Protest, que Franck a organisé des concerts en 1822, je crois.
à l'époque du franc.
Voilà. Le franc lourd.
Voilà. 50 balles, c'était à l'époque.
C'est moins impressionnant quand on dit 7, 8, 13 euros.
Bah, ça, ouais. Oui, ça,
bon, c'est rien, quoi. Enfin, c'est deux paquets de 40 bars et demi. Donc, non, il y a quand même un certain temps qu'on observe ce qui se passe dans les scènes qui nous intéressent. Donc, une certaine connaissance de ça. Alors, il y a la connaissance un peu historique qui permet de sortir du chapeau des Palais Schomburg, des Kim Follet, des gens comme ça, des Tony Conrad, qui font l'histoire de ces musiques qu'on qualifiera de ce qu'on veut. après, il y a aussi le fait de réussir à peu près à voir ce qui se déroule aujourd'hui, là, de ce qui est vivant aujourd'hui, et que de réussir à tisser des liens, en fait. L'envie, en fait, entre le coup de cœur et le coup de raison, quoi, il y a les deux qui parlent en même temps. Mmh. Et puis que c'est de donner à un moment, donner une photographie de ce qui nous semble, nous, intéressant, et ce qui nous semble... à ce moment-là, présentable aussi, parce qu'il y a des choses qui peuvent être chouettes, mais auxquelles on n'a pas accès, parce que des fois c'est compliqué d'organiser le concert de telle personne, parce qu'il habite loin, parce qu'à ce moment-là, il n'est pas disponible, et que ça sera possible que dans 3 ans. Enfin, il y a un rapport entre le désir et le réel, de ce qui est réellement possible de faire, qui est primordial dans la façon dont la programmation est construite, et puis qui est assez... il y a un moment aussi... il faut quand même garder une dose de modestie, que c'est juste un point de vue et puis c'est tout, quoi. Enfin, ça dépasse guère ça.
Oui, on est à l'écoute en permanence, vu qu'on est nous-mêmes musiciens, on joue avec des gens, on écoute beaucoup de disques, on lit des fanzines, on se tient au courant de tout ce qui se passe, et puis on découvre les choses par le biais du disque, hein, ce qui est le cas de Spectrometer, ce qu'on a écouté tout à l'heure. C'est par le biais des disques qu'on est arrivé à le contacter. On n'avait pas jamais vu en live. Mais voilà, on fait des listes à rallonge. Un jour, on les publiera peut-être. Et puis, on essaie de combiner les soirées. On réfléchit vachement, en fait, aux soirées. Ça n'a pas l'air comme ça. On a l'impression que c'est une espèce de collage, comme ça, de plein de trucs et tout. Mais en fait, tout est très, très réfléchi.
Ok. Peut-être écouter un morceau
que vous avez choisi ou qui passera lors du festival, enfin d'un groupe qui passera lors du festival.
Une as.
On a choisi quelque chose.
Une as.
Une as.
On en écoute tout
ça
de suite.
Ça lève le pouce en agit.
toujours en direct d'Etarek Rack sur Radio Campus Paris 93.9. Il est 23h06 et nous sommes toujours en compagnie de d'Arnaud Rivière et Franck. J'arrive jamais à retenir son nom. De Kingo.
Franky,
quoi. Les deux programmateurs, Dissonic Protest. À l'instant, on vient de passer un titre de Unas qui jouera lors du festival, un groupe de Brest. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce groupe, Franck ou Arnaud?
Ben en fait, c'est un groupe avec une personne. Ça rappelle un peu ce qu'on a entendu.
C'est The Unas, du coup.
C'est The Unas au départ, et puis finalement Unas, parce qu'il y en avait marre
de justifier pourquoi est-ce que.
Unas, mais je crois que c'est Arnaud Rivière qui va en parler d'Unas parce qu'il l'a vu c'est en concert.
Je l'ai vu, oui, c'est pas un mythe. Unas existe. C'est un peu le démon de l'Eurodance, quoi. Il existe en vrai. Moi, je l'ai vu et entendu finir un festival aussi, le Tapet Fest, soit le festival du Pathos maintenant, qui est un festival qui se passe dans la campagne rennaise, avec plutôt beaucoup de bonne humeur. Superbe journée, ensoleillée, des chapiteaux, des concerts dehors, tout ça. Et puis, il a fait un set de 2h30 entre, on va dire, 1h30 et 3h du matin, qui a laissé tout le monde pantois et achevé. En faisant vraiment danser la totalité des gens qui étaient là sur ce truc qui est, je sais pas, ouais, le côté Eurodance, moi, me semble quand même vraiment marquant dans sa musique, et c'est pas ce que je préfère à la base. N'empêche qu'ils s'en tirent plutôt bien entre ça, le côté Train 13 Nord aussi, voilà, qui sont autant de références que je mettrais pas en avant d'habitude. N'empêche que ce type-là a une manière de faire de... Ça rigole, hein.
Ils vont se faire écrouler. Electronic Body Nude Music.
Ouais, c'est ça. Il se trouve que bon, pour un type qui joue tout seul et de l'électro de ce genre-là, il arrive sur scène aussi à produire à donner une grosse énergie. En tout cas,
il ferait pas partie de la bande de l'Est aussi, ouais,
dont on parlait juste avant. On en parle une dernière fois, puis après on en parle plus.
Non, c'est bon.
Non, c'est bon. On l'a dit.
Être sûr.
En tout cas, c'est un mec c'est un Suisse qui fait partie de la bande de l'Est à Brest. Voilà. Donc géographiquement, il est un peu aussi étalé dans sa musique.
La bande de l'Est, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était la grande triple alliance internationale de l'Est, dont on parle presque à chaque émission ici dans les Terres et Crac.
Je crois qu'il y a des gens qui viennent de Metz dans l'émission.
Moi aussi, je viens de Metz, pour ça je suis super contente.
En fait, c'était toi qui étais visé, c'était pas nous.
Mais ce qui est remarquable, c'est que Unas joue pour la soirée de la 10e édition.
La 10e édition, ce n'est pas test.
Mais 10e édition. Il va jouer relativement tard d'ailleurs.
Eh ben c'est une histoire d'endurance, en fait. Le fait qu'il y ait 10 éditions de Sonic Protest, ça veut quand même dire que l'endurance, c'est une valeur qui compte. Il y a toujours cette ambivalence sur Sonic Protest, que c'est à la fois un marathon et un sprint. Et Unas, lui, va participer à la première nuit Sonic Protest. Il y a déjà eu d'autres choses qu'on a tenté, comme pour questionner le format de la diffusion des musiques expérimentales. En tout cas, là, il y a une première nuit Sonic Protest qu'on fait à l'occasion de la 10e édition pour célébrer ça un petit peu et passer subtilement du concert au dance floor. Ce qu'on n'a jamais fait, puis qu'on a envie de faire depuis quelques années, et puis on s'est dit, tiens, si on n'y arrivait pas là, on n'y arriverait jamais. C'est le 4 avril, c'est l'ouverture de Sonic Protest, c'est au Centre Barbara Fleury-Goutte d'Or, et ça commence avec des concerts où il y a quand même cette notion de trance qui se questionne par divers endroits. Il y a à la fois Andy Bolus qui va jouer son projet Evolmeuchter, qui est le noyau de son activité de détournement d'objets, de faire sonner l'électricité en la passant dans la viande, par exemple, enfin, des choses comme ça qui sont quand même uniques et remarquables. Et puis, il y aura des choses qui touchent au groove d'une manière toute particulière, avec un duo qui fait se rejoindre Will Guthrie et David Marana. Par exemple, Will Guthrie est un batteur en ce moment qui est assez remarqué en Europe, quoi, qui a une façon de battre la mesure dont on peut reconnaître quand même qu'elle est très personnelle. Et puis David Marana, c'est un type qu'on écoute depuis la fin des années 80 et qui place sa musique dans une sorte d'héritage de Tony Conrad. Là, voilà, enfin, y a une force comme ça de cette musique assez tellurique qu'ils vont jouer tous les deux, qui a quand même une couleur assez particulière. Et puis il y aura Radian, par exemple, ce soir-là, un groupe autrichien qui, depuis une bonne vingtaine d'années, explose bien les frontières, mais quand même avec cette histoire qu'il y a la pulsation, ça compte, quoi. On a beau faire des musiques expérimentales, etc., c'est chouette quand même des fois de pouvoir tapoter du pied en même temps que ça fait plaisir aux oreilles et au cerveau.
De se mettre sur off.
J'ai pas entendu.
De se mettre sur off au cerveau.
Ouais, des fois, ah ouf, c'est dur ça. J'y arrive pas. qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette première soirée épatante?
KG dont on a parlé, Rubinsteiner et DJ Marcel qui vont nous faire donc les DJ sets. Ce serait trop facile si on mettait les DJ à la fin, on va quand même mettre du live, enfin on va un peu compliquer le truc. Il y aura Usé.
Il faut dire beaucoup de bien d'Usé. Ouais.
Ouais, combien il a fait
2,17. 2,17% aux élections municipales d'Amiens.
Je crois qu'il est passé devant le PS. Hein, il
non. Parti sensible.
Non, mais le PC, parti sensible. Sensible avec un C. Ouais.
Je crois que c'était pas le dernier, en tout cas.
Il n'est pas dernier, et il l'avait prévenu le dernier paye l'apéro. Il l'avait dit dès le départ.
Donc il a payé les gens pour.
Il a dit deux choses, il a dit le dernier paye l'apéro, et en plus j'ai plus une thune.
Du coup, il défendait quoi? C'était quoi son.
50 propositions utopistes, philosophiques et comiques.
D'accord.
En gros, comme ça, qui.
Vous en aviez quelques-unes des comiques dans la.
Nous, c'est pas notre genre. Donc,
ah, nous, c'est pas la politique.
C'est son truc.
Non,
ça vaut le coup. Ça vaut le coup. J'imagine que sur les canaux de communication de Sonic Protest, type Facebook et tout ça, il y a eu des liens de fait à la campagne de Usé et de sa cinquantaine d'amis à Amiens, qui avec. Ouais, impertinence, humour, et puis quand même une façon un petit peu critique de
j'étais pas du tout au courant, j'ai super hâte d'aller voir.
Non, ça vaut vraiment le coup. Enfin, il y a un gros débat à Amiens, manifestement, comme toute ville de taille moyenne en France, de se demander quand est-ce que le tramway va arriver. Eux, ils ont plutôt proposé qu'il y ait un tiers-fesse à la place d'un tramway. À chaque fois, ils ont réussi à faire glisser deux, trois petits trucs, qui fait qu'ils ont quand même pris 2,17, quoi. Et ils sont pas les derniers. En tout cas.
À part faire de la politique, ils font aussi de la musique.
Non, ils feront une conférence.
Discours politique. Rajouter une conférence, parce qu'il y aura des conférences.
Il y a des conférences aussi. Mais en tout cas, Usé, lui, il jouera de ses instruments de prédilection, deux guitares à plat, qui jouent plutôt comme une percussion, plus un gros set de percussion, de la voix, des chansons no wave répétitives. Et puis, c'est lui qui finira la soirée. Jusqu'à vers 5h du matin, quoi, c'est dans ces eaux-là.
Et comment est-ce que vous avez.
Je précise juste que c'est le membre des Morts Vont Bien et de Edouard.
Ouais. Edouard qui a fait un ou deux concerts là, récemment à Paris et ça, on a eu à chaque fois des retours excellents.
Bah, c'est un groupe qui compte, Edouard, quand même. C'est des gens qui font vivre une scène, enfin pas que Edouard, mais.
Ils viennent de quelle scène déjà, je sais plus.
Ils viennent d'Amiens.
Ironie.
Je comprends pas ton humour. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, Edouard, c'est entre autres, ils font partie des initiateurs du label Brick à Amiens, d'une salle qui a été assez éphémère, mais qui a été justement à l'origine de cette candidature politique, dont la fermeture a été à l'origine de cette candidature politique qui s'appelait l'accueil froid. Ça fait plusieurs années qu'à Amiens, il y a des temps tentative comme ça de faire bouger les choses à travers plutôt des initiatives qui tiennent du squat que des choses plus formalisées. Et puis autour de l'accueil froid, il y a eu 2 ans d'embellie comme ça à ces classes qui ont été fermées par la mairie. Et puis du coup, ça a été la réaction. En tout cas, ouais, Nico, c'est un membre d'Edouard qui est un groupe assez fabuleux quand même, qui écrit son petit bout de chemin à lui depuis quelques années.
Ok, et du coup, pour rebondir sur les ponts jetés entre musique et politique, Sonic Protest, lui, jette des ponts entre la musique et les arts plastiques, avec des ateliers, des conférences, des installations qui touchent au sonore, mais aussi à l'art plastique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces éléments du festival ?
Et en fait, là, d'habitude, on essaye de faire des installations sonores, mais qui arrivent en fait en début de festival et puis s'arrêtent dès que les concerts commencent, avec des soirées gratuites, etc. Et là, cette année, on essaye le format où en fait, une installation sonore qui va durer pendant toute la durée du festival. Ça va se passer à la Générale du Nord-Est. Donc le festival commence donc le vendredi 4, la soirée Barbara, et après, dès le samedi 5,
jusqu'au 7.
À la Générale, qui est donc 14 avenue Parmentier dans le 11e arrondissement, en entrée libre. Tout ce qui va se passer à la Générale, c'est en entrée libre.
C'est important de préciser.
Ça, c'est important de le préciser. On peut d'ailleurs, parce que je suis sûr qu'on va l'oublier, dire qu'il y a pour les choses qui sont payantes, il y a des tarifs CROUS qui sont très intéressants.
C'est une radio étudiante.
Mais justement, c'est pour
c'est
ça.
C'est une radio étudiante partenaire du festival.
Je l'ai dit.
Voilà. On le rappellera tout à l'heure, mais bon. Et donc, il y a ce module d'exposition qui s'appelle Let's Get Physical, qui va avoir lieu avec 3 installations sonores. Une d'Arnaud Pacotte, une de Jean-François Laporte Et une troisième, alors il y a eu un petit changement pour ceux qui avaient suivi un peu les premières informations. Il devait y avoir un musicien japonais qui devait faire une installation sonore, Tetsuya Umeda, et qui a eu un empêchement, donc qui ne pourra pas venir. Et donc c'est Xavier Charles qui va faire une installation à sa place, voilà, qui joue dans Atmosphérique, qui fait aussi des concerts à cette occasion. Je crois que pour les... Enfin, on peut en parler, mais il y a un site internet, tout chaud, tout beau, www.sonicprotest.com, et là-dessus, il y a toutes les infos pour tout ce qui va se passer à la Générale, mais sauf si Arnaud veut...
Je vais rajouter un truc.
Développer. Bah, allez,
non, vite fait, l'expo et ce qui se passe autour de ça, c'est aussi un moyen d'avoir une autre temporalité que juste un concert où on vient, on voit entre 3 et 7 concerts et puis on rentre chez soi plus ou moins sous. L'expo amène vraiment un autre type de rapport au sonore. Tout à l'heure, Camille disait que c'était ça qui se passait peut-être autour de Sonic Protest, c'était aussi d'imaginer qu'on puisse avoir des rapports complexe et différent à cette chose qu'est le sonore. Il y a le...
T'as bien reformulé, hein.
T'as une. C'est un ping-pong. Le concert est un rapport au son, un rapport à la musique en général, et puis il y a quand même des propositions qu'on ramène depuis longtemps, qui sont de l'ordre de la performance ou justement de l'installation sonore. Ça fait 3-4 ans qu'on travaille autour de ces formes-là aussi. On est vraiment à la base des gens qui faisons du concert. Pour moi, c'est la forme... privilégié où se déroule la musique. J'aime bien les disques, mais je préfère voir les gens en vrai en train de le faire, par exemple. Ça, c'est mes goûts personnels. Et puis il y a cette histoire de plein de manières de faire du son, et les installations sonores nous ont amené comme ça à pouvoir faire aussi d'autres propositions, entre autres celles qui vont emmener cette année vers la restitution d'ateliers, dont je parlais tout à l'heure, qu'on fait des ateliers avec différents types de publics. Il y aura aussi des conférences, ce qui pour l'instant n'a pas fait. Je crois pas qu'on ait fait de trucs où ça cause comme ça, frontalement. Non, des conférences.
Laurent Jeannot n'avait pas fait un petit topo l'année dernière.
Qui ça?
Laurent Jeannot. À la Générale, il n'avait pas fait un petit...
King Gong.
Alors, c'était prévu sous le format plutôt conférence qu'il n'avait pas fait au bout du compte.
Oui, il avait diffusé son documentaire.
Voilà, ouais. En fait, il avait causé pour introduire son film, mais avait plus laissé la parole à ceux qui avaient fait le film qu'à lui-même. Donc effectivement, c'est un truc qui nous tente depuis un petit temps. Puis là, on a essayé autour d'un thème d'avoir des propositions aussi de gens qui vont causer et qui devraient normalement... faire une conférence performée, quoi, à peu de choses près. Ce ne sera pas de la conférence brute de brute, avec un sujet, un verbe, un complément, trois parties, thèse, antithèse, synthèse, quoi. Je crois que ça sera un peu plus foutraque que ça. En tout cas, ce n'est pas nous qui la faisons, mais on a dans l'idée que ça sera
plus. C'est prévu.
Ça.
Oui.
Comment ça, plus foutraque?
Bah, qu'une conférence, c'est un spectacle en même temps, quoi. Enfin, quand on est à la fac, des fois, on voit bien qu'il y a des profs qui ont cette force-là de pouvoir incarner un discours, et puis d'autres qui, vont lire leurs notes, quoi. Les séminaires de Badiou ou Lacan, c'est aussi rigolo que quoi.
Qu'un concert de Carlos.
Yeah.
Par exemple.
J'en ai pas vu, donc je ne sais pas.
Ni l'un ni l'autre.
Tratator.
Non, mais voilà, il y a des gens qui peuvent expliquer des choses d'une certaine manière, qu'elles sont vivantes et rigolotes, et qu'il y a des chances que les trois personnes qui vont présenter ces conférences-là le fassent pas exactement de la manière comme si on était à l'école, quoi. Enfin voilà, l'idée c'est pas l'université du savoir populaire ou ce genre de choses. C'est dans le cas de Sonic Protest, on prend un thème, on en cause, quoi.
D'accord. On va enchaîner sur un titre que vous avez également choisi comme tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez déjà calé ou pas.
C'est bon.
C'est bon.
Je pense que c'était un 33 tours de Brigitte Fontaine.
Superbe.
Très bien.
Comme réédition d'un de ses albums cultes, Comme à la radio, qui vient d'être réédité sur le label américain Supérieur Viaduct. Et Brigitte Fontaine va jouer
au festival. La pochette. Tout de suite, Brigitte Fontaine dans Éther et Crac.
Monsieur le chef de gare de la tour de Carole, vous étiez très pâle à 7h du matin. Vous vous aviez les paupières froissées. Et ça n'avait d'importance pour personne au monde. Ce qui est une chose horrible et normale. Station avant, et je ne vous verrai jamais. Comprenez-vous combien ce mot est cruel et combien il est nul en ce qui nous concerne, vous et moi?
l'écoute de Radio Campus Paris dans l'émission Éther et Crac 93.9, il est 23h presque 30. On est toujours en compagnie d'Arnaud et Franck, les programmateurs du Sonic Protest, et on vient d'écouter à l'instant un titre de Brigitte Fontaine, dont Franck va nous dire le nom.
Lettre à monsieur le chef de garde de la tour de Carole. Donc ça c'est extrait de Comme à la radio, produit par Sarava et Brigitte Fontaine et Areski.
Oui, j'avais oublié Areski, bien sûr.
Sont accompagnés de l'Art Ensemble of Chicago.
Très bien. Brigitte Fontaine va, et Areski vont jouer tous les deux lors du Sonic Protest le mardi 8 avril, dans une soirée avec Maman Sani, qui est nigérien, et Jericho.
Qui sont auvergnats.
Il y a aussi le pianiste de Don Dieu Divin, le pianiste de Brigitte Fontaine.
Et il vient d'où, lui ?
Pondichéry.
De Pondichéry, c'est vrai ?
Non, c'est pas une blague minute.
Non, c'est vrai,
il vient de Pondichéry.
Très bien, donc je sais pas si vous pouvez un petit peu nous parler de cette soirée, pourquoi les avoir programmés tous les trois ensemble. On vient d'écouter un petit peu des trucs orientaux là dans le titre à l'instant, qui rappelle peut-être Maman Sani, je ne sais pas, même si je sais pas si c'est aussi ce qu'on va écouter lors du Sonic Protest, si ce titre est en rapport ou pas avec ce que vont proposer.
Bah, là, ça fait un bout de temps qu'on essaye de contacter Brigitte Fontaine et Areski pour jouer à Sonic Protest. Il se trouve que cette année, c'est la bonne. Au départ, on avait envie de leur proposer une formule qui faisait pas, enfin qui ne font pas ailleurs, pas un système de concert avec un groupe complet, etc. Puis se retrouver un format minimal, comme ce qu'ils faisaient donc à l'époque plus des années Sarava, mais de jouer des chansons actuelles. Donc forcément avec la possibilité de jouer à l'église Saint-Méry. Ça donne la possibilité d'expérimenter des formules plus réduites ou avec un travail sur le son particulier. En discutant avec Areski, il nous a proposé une formule des pianos-voix, en fait, un récital. En fait, dans chaque concert, Brigitte Fontaine fait à un moment donné un morceau juste avec son pianiste. Mais c'est un moment dans le concert. Et là, du coup, c'est développer cette version des chansons sur tout un concert, d'où donc la présence de Don Dieu Divin, et on a insisté lourdement pour que Areski Belkacem participe aussi, chante, joue des percussions, et donc c'est voilà, ça va être une forme complètement inédite, je pense, sous cette forme de concert.
Ah, c'est complètement unique. Il y a la proposition, il y a le lieu, l'église Saint-Méry, qui est vraiment un endroit qui compte pour Areski. En tout ça, quand on a discuté avec lui, pour lui, c'était très très clair que ça pouvait se faire parce que c'était cet endroit-là, qui est un endroit très important pour le festival, parce que ça fait quelques années qu'on y va, qu'on y passe des sacrées soirées, et que ça montre aussi. Enfin, il y a toujours dans l'idée préconçue, qu'est-ce que c'est qu'un concert dans une église. Voilà, il y a vraiment une image du concert dans l'église. Il se trouve qu'à Saint-Méry, c'est un endroit où tout est possible pour faire des concerts, qui est un des seuls, un des rares endroits, pas le seul, on s'en fout qu'il y en ait 5 ou 22, mais en tout cas c'est un des rares endroits à Paris et dans le centre de Paris, en plein centre, où on peut faire vraiment ce qu'on veut grâce à une équipe pastorale, donc parce que c'est une église qui est en...
Ouais, de ce type surtout, quoi, parce que c'est quand même assez rare les concerts dans des...
Des concerts de... où on a le droit de faire des concerts de rock, de noise, oui, de voilà, ce qu'on veut, ça, dans une église, parce que y a des gens en face qui pensent que c'est important que ça puisse arriver. En tout cas, voilà, ce lieu est un lieu, encore une fois, relativement unique et en plein cœur de Paris, en plus, quoi, voilà. Puis avec cette architecture, avec des gens qui sont... fort sympathique pour nous accueillir. Voilà, c'est un lieu où on va depuis 2011, ouais, 2011. Donc et qui devient vraiment constitutif de ce que c'est que Sonic Protest, quoi. Voilà,
on se souvient de l'année dernière, ce concert de cheveux où l'église avait été bien utilisée puisqu'ils avaient joué avec l'orgue,
qui était
Xavier Klein. Ouais.
Avec Xavier Klein. J'ai été à ce concert et j'ai vécu une expérience un petit peu unique. Parce que c'était le premier concert que je faisais dans... Enfin, pas le premier concert que je faisais dans une église, mais le vrai concert de ce type, on va dire.
C'est le premier concert que tu as fait avec une bière à la main dans une
église. Dans une église, exactement.
Probablement.
Voilà, peut-être que c'est
la même chose pour beaucoup. Et que c'est pas un pis aussi, voilà. Enfin, il y a un moment, chacun a ses...
Tu te demandes quand même, tu te dis, mais c'est tellement bizarre. Alors, je vais encore plus m'amuser. C'est un peu le...
C'est une histoire d'autorisation et puis de transgression en même temps, quoi. Enfin, qu'il se trouve encore une fois que cette église, elle est gérée par un curé, curé qui a une équipe aussi, voilà, qui gère pas tout seul. Parce que comme il y a une église qui est plutôt d'extrême droite avec Saint-Nicolas du Chardonnay, il y a une église qui est plutôt de gauche ou d'extrême gauche, qui est l'église Saint-Méry. C'est là qu'est produite la revue Esprit, par exemple, qui est, en termes de savoir et de réflexion, un organe qui a du sens, enfin, qui produit des choses, quoi, voilà. Et cet endroit-là, enfin, c'est aussi, par exemple, il n'y en a pas beaucoup à Paris, c'est un endroit où il y a des célébrations gays pour les catholiques gays,
ouais,
ça doit être une ambivalence pas facile à vivre tous les jours, comme d'être catholique et d'aimer le hard rock. Voilà, ce sont des choses qui ne sont pas faciles forcément.
Catholique, gay et d'aimer le hard rock,
tout ça est possible. Et tout ça est possible à Saint-Méry, mais pas à Saint-Nicolas du Chardonnay. Voilà. vu qu'à Saint-Nicolas.
Non, ça se passe sous ce concert. Hein.
En tout cas, c'est à Saint-Nicolas de Saint-Méry. Enfin, c'est compliqué cette affaire. Non, c'est voilà, il y a cette église. En plus, voilà, enfin, c'est un bâtiment qui est quand même du pur gothique. C'est la seule église de Paris, peut-être pas de France, mais en tout cas de Paris, où il y a Baphomet, le diable sculpté au-dessus de la porte. Enfin voilà, ça accumule comme ça des raretés, des bizarreries. Les orgues sont hyper belles aussi, sont en super mauvais état, mais c'est un magnifique instrument. Nous, en tout cas, on y va deux fois cette année, tellement on aime ça. On y va une première fois le 8 avril avec ce concert qui fait des liens qui n'existent peut-être pas ailleurs, entre la musique traditionnelle revisitée que joue Géricault. Je disais tout à l'heure, c'est des Auvergnats, parce que réellement, ils partent de motifs de bourrée auvergnate, avec vielle à roue, banjo, cornemuse cabrette, quoi, la cornemuse du coin, puis de la voix. Enfin, c'est un quartet qui anime aussi bien des balles folk dans les près de Vichy que du coup ce concert qu'ils viendront faire chez nous. On y retrouve Yann Gourdon, pour ceux qui ont suivi quelques épisodes de Swing Protest, ça peut dire quelque chose.
Grand habitué du festival.
Un des fidèles. Ouais. De l'affaire. Maman Sani, qui vient du Niger, donc qui vient pour la première fois en Europe jouer sa musique, qui est le pan de la musique électronique du Niger, quoi, qui n'existe qu'à travers lui, pour réinterpréter des chants traditionnels du Niger, mais au synthé. Et puis Brigitte Fontaine, Esquivel Kassem et Don Dieu Divin. Voilà, enfin, ça fait une soirée de grands écarts, grands écarts, tu penses?
Bah ouais.
Grand corps malade, grands écarts.
Et tu disais qu'il y avait une autre soirée aussi à l'église Saint-Méry.
Il y a une deuxième soirée deux jours plus tard, le jeudi 10 avril, où on est sur des territoires musicaux complètement différents, avec Merzbo, donc le demi-dieu de la noise, quand même, un peu de choses près.
Oui, mais King of Noise, Monsieur Noise, quoi.
Ouais, enfin, sans lui, le genre Jap n'existerait noise. Pas, quoi. Enfin, un peu de choses près.
Oui.
Dans la même soirée, il y aura Tsaikratzer quand même. C'est pour la première fois Tsaikratzer joue à Paris. Enfin, en tant que tel, ça par exemple, c'est aussi un événement dans l'événement qu'est Sonic Protest, on va dire. Tsaikratzer, c'est un ensemble de musique contemporaine allemande avec toute la rigueur que ça veut dire. Quand on met musique contemporaine et allemande, on sent quand même que la note elle va pas être tordue, quoi.
Et pourtant, on va rigoler.
Et pourtant, on va se marrer parce que c'est des gens qui jouent sans partition ou alors des partitions qu'ils ont réécrit eux-mêmes en écoutant la musique de Merzbo ou d'autres producteurs comme ça de noise comme White House. Ils réinterprètent des compositions qui ne sont pas faites pour être interprétées par un orchestre. Donc c'est un orchestre de musique contemporaine qui joue juste à côté de ce que devrait être un orchestre de musique contemporaine.
C'est quoi, comment on peut se figurer la formation de cet orchestre de musique contemporaine?
Et ben, c'est 10 musiciens qui jouent percussion, contrebasse, piano, violoncelle, violon,
amplifié.
Alors amplifié, il se branche pas sur ampli, c'est juste qu'il y a en plus une façon de produire le son qui fait que les micros sont collés à 3 mm des cordes si c'est des cordes ou à 2 mm de la peau si c'est de la peau de percussion. Et du coup il y a une façon de produire le son avec une dynamique qui est toute singulière à leur boulot, quoi. Enfin, c'est un vrai orchestre de musique contemporaine qui aussi dans différents programmes interprète du Cage ou du James Tenney ou des choses du répertoire de musique contemporaine, mais ils ont choisi à la fois de réinterpréter, de réécrire des pièces qui n'ont pas été produites pour des ensembles, et puis aussi de composer eux-mêmes des pièces de relecture de certains axes comme ça. Là, une des pièces qui sera présentée à Saint-Méry pendant Sonic Protest, il y aura à la fois un album de White House qui est réinterprété par Tsaikratzer et une composition qu'ils ont fait à partir du folklore du Danube, donc du yodel des Alpes, de l'accordéon, à danser et à boire, voilà, mais réinterprété par ces gens-là, quoi. Et puis DJ Sound of Silence.
Mais on a surtout DJ Sound of Silence qui donc là c'est trois personnages qui vont venir faire une sélection de morceaux de silence qu'on retrouve sur des disques de musique que ça va du rock, du punk puisqu'il y a Crass, des choses plus conceptuelles, Andy Warhol, etc. Donc ils collectionnent comme ça les pièces de silence sur les disques vinyles.
Leur punchline, c'est écrit. Sur les informations du Sonic Protest, The Most Intriguing Silences in Recording History. Désolé pour mon accent horrible en anglais.
Non, je pense que les anglophones qui sont à l'antenne.
Te remercie.
Oh, c'est super méchant, j'ai envie de leur faire super mal, mais je m'en abstiendrai parce que. Ah, voilà. Oui, on continue sur le Sound of Silence.
Ça risque d'être assez déroutant. Hein, puisque bien entendu on va avoir des trois types, déjà pas deux, trois types derrière des platines et qui vont jouer du silence.
Entre deux masses de noise extrême. Bon bah voilà, c'est...
Voilà, on vous aura prévenu, venez pas vous plaindre que le matos marche pas, c'est normal.
Il est cassé.
Voilà. Voilà, et au milieu entre ces deux soirées, comme ça on va vite et puis on peut en écouter un petit bout, il y aura aussi une soirée au Cirque Électrique, on passe de l'église au cirque... Et puis à l'église de nouveau, mais en tout cas le 9 avril, il y aura une soirée au Cirque Électrique, où on est allé l'année dernière par exemple, aussi. Une soirée qui nous permettra d'écouter L'Œillère, un projet de guitare folk, à peu de choses près, qui vient de Bruxelles, qui sera suivi de Phil Minton, qui est le vocaliste le plus original d'Europe et... du Commonwealth.
Oui,
du Commonwealth.
Il fait des concerts qu'avec
sa voix, quoi.
Son organe vocal.
Vocal. Non, c'est un type qui a 74 ans quand même, en 2014, défriché quand même un territoire sur les musiques libres, free, improvisées, par exemple la scène anglaise, là, le noyau de la scène anglaise où on parle de Fred Frith, Derek Bailey, Lol Coxhill, Roger Turner, Phil Minton, voilà, enfin c'est les espèces d'étoiles qui ont maintenant entre 70 et 80 ou qui pour certains sont décédés dans le tas, de ces gens qui ont quand même écrit une façon particulière de proposer de la musique avec une vivacité... d'équipes de rugby ou de foot, là, l'espèce de truc très frontal qui arrive sur scène avec toujours un enjeu comme ça. Le truc, les Anglais ont une façon quand même particulière de produire de la musique. Et cette scène-là, dans la scène anglaise, a quand même une façon encore très énergique, malgré l'âge qui avance, de présenter de la musique. Et Phil Minton est à tout point remarquable. Qui n'a jamais vu Phil Minton doit se pointer ce jour-là, parce qu'il n'y a rien qui ressemble à un concert de Phil Minton à part Daffy Duck.
Je savais pas qu'ils avaient compris d'une crise d'asthme, comme c'est marqué.
C'est marqué intelligemment dans le programme. Et puis cette soirée, il y a Albert Marker.
Albert Marker, ouais, qui vient avec son projet avec le Quatuor Bella, un spectacle qui s'appelle Si oui, oui, sinon non. Et Albert Marker, pareil, hein, ça fait un bout de temps qu'on a envie de travailler avec lui. Le problème, c'est que jusqu'à très récemment, il était quand même sur des formes de spectacle assez lourdes, avec beaucoup de techniciens, une grosse équipe, et que de le présenter dans la même soirée, enfin dans un festival où il y a 3, 4, 5 lives, c'était compliqué. On discutait avec lui pour savoir s'il y avait des formules en groupe, quoi, qui pouvaient exister, en trio, etc. Ça n'arrivait pas, et en fait ce projet tombe à pic pour qu'on puisse l'inclure dans le festival. Donc c'est lui qui va finir cette soirée du 9 avril au Cirque Électrique. Cirque Électrique, c'est place du Maquis de Vercors, pardon, dans le 20e arrondissement.
On va écouter un morceau tout de suite.
On va écouter un petit Phil Minton, je crois.
C'est parti.
Oh, my God.
toujours à l'écoute de Terre et Crac. Vous venez d'écouter un extrait très bref de
Merzbo,
qui jouera lors du Sonic Protest dans la soirée du jeudi 10 avril, on en a parlé tout à l'heure, aux côtés de Zeitcracker et de Sound of Silence. Tout à l'heure, Franck, tu disais que tu avais mis que ça faisait longtemps que vous vouliez programmer Albert Marker et le Quatuor Bella, c'est ça ? Est-ce qu'il y a des artistes du Sonic Protest derrière lesquels vous courez depuis des années que vous incitez, dont vous avez vraiment, insisté pour les avoir.
Ça fait longtemps qu'ils sont dans la wishlist, mais
qui n'ont pas encore joué. Vous voulez qu'on vous révèle des noms?
Non, sans forcément faire du name dropping, mais
Ceux qui ont déjà joué, il y en a qu'on a derrière lesquels on a couru depuis longtemps.
C'est ce qu'on disait avec Brigitte Fontaine.
Ouais, c'est une sorte de persévérance.
D'accord, parce que
les Dead Seals qui ont joué l'année dernière, par exemple, ça a été
y a pas mal de groupes comme ça qui nous ont demandé pas mal de temps.
Je me dis, dans tous les festivals, les programmateurs à chaque fois se disent.
Ils attendent que les tourneurs montent des tournées. Et puis comme ça, après, ils font un petit marché, ils font des petits croix dans des petites cases, et
ils
puis après, ils ont une addition.
Je crois qu'ils se réunissent.
Comme ça, ils sont sûrs que ça ne coûte pas trop cher.
Rencontre de
ça,
programmateurs.
Ça va pas loin. Enfin,
dans des hôtels.
Vous êtes pas invité.
Et on n'est pas invité. Là, on a l'impression de cracher dans la soupe.
Invitez-nous.
Non, on ne crache pas dans la soupe, on casse le business de personne, chacun fait sa manière de travailler. En tout cas, il est évident, quand on regarde à l'autre bout du spectre des choses qu'on peut faire dans les festivals de musique actuelle qui se passent l'été, par exemple, que c'est des affaires de gros sous et que manifestement il y a c'est pas l'originalité qui prime, quoi. Voilà, c'est quand même d'autres questions. On n'a rien à voir avec ces gens-là, et
tant mieux.
Oui, bien sûr. Il y a plein de gens dont on se sent proche, en tout cas, on se sent pas tout seul dans notre démarche. On essaye que la nôtre soit la nôtre et c'est tout, mais c'est pas pour dire qu'elle est mieux ou pire que les autres, c'est juste qu'on essaye de faire raisonner une façon de faire seulement. En tout cas, il y a certaines façons qui nous font dire que c'est pas original. Voilà, ça veut pas dire que tout ce qui n'est pas Sonic Protest n'est pas original, loin de là, mais qu'il y a quand même ça, il y a des gens qui n'attendent juste que les tournées se montent. On essaye, nous, à l'inverse, de monter des tournées, de faire inviter des gens qui ne jouent pas souvent, et puis de leur monter des tournées aussi pour faire vivre la chose, et puis que le festival, il est fait pour diffuser la musique. Et pas du tout ta question, mais...
Non, mais c'est intéressant, est-ce que tu veux dire que quand tu leur montes des tournées grâce aux dates que Sonic Protest fait en province et à l'étranger, ou bien...
Tout à fait.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
On fait pas
jouer de gens en dehors des dates Sonic Protest. En gros, on associe des dates. Il y a des dates qui sont labellisées, on va dire Sonic Protest, et puis il y a des dates qui sont associées seulement parce que par exemple, il y a une date qui a lieu de Merzbo qu'on vient d'entendre. Il y a aussi une date qui a lieu dans le Festival Impetus. Alors dans le Festival Impetus, si ça s'appelle une date Sonic Protest, ça commence à devenir un petit peu compliqué en lecture. Il n'y a pas de raison que ça s'appelle Sonic Protest là-bas. Mais en tout cas, c'est une date sur laquelle on travaille ensemble parce qu'on a fait venir Merzbo nous en Europe, et puis on a fait venir Merzbo en Europe parce que aussi on pouvait le faire. On pouvait lui offrir plusieurs dates. Merzbo, c'est un demi-bon exemple parce qu'il n'aurait pas vraiment besoin de Sonic Protest pour monter des tournées.
Ça fait un bout de temps qu'il n'a pas joué solo, quand même.
Ça fait un bout de temps qu'il n'a pas joué solo
mais
en Europe.
Je pense à l'an dernier, je crois qu'il y avait Torturing Nurse.
Un groupe chinois, oui, tout à fait, qui a fait une tournée de 8 dates en Chine, ce qui n'était pas arrivé avant, quoi. Ils avaient une date unique en Danemark, dans ce coin-là, quoi. Et puis, ils étaient donc déjà venus en Europe, ce n'était pas leur première venue en Europe, mais ils n'avaient jamais tourné entre 8 et 10 jours en Europe, quoi. Et ça permet à la fois de partager les coûts d'artistes un petit peu compliqués à faire venir, comme peut être Merzbo. Et puis de l'autre côté, ça permet de faire tourner des gens comme Torturing Nurse l'année dernière, ou Usé, dont on parlait précédemment dans l'émission. Usé fait 5 ou 6 dates dans Sonic Protest cette année. Voilà. Enfin, c'est assez chouette de pouvoir mettre ça en mouvement.
Le vendredi 11 avril, vous faites venir Thurston Moore solo et Lee Ranaldo solo. Pourquoi ? Les faire tous les deux jouer en solo, ils sont écrits sur le même concert. Alors ça va être une demi-heure. C'est.
Oula, ça. C'est
bien fort qu'il peut le dire.
Hein, oui, c'est intriguant. C'est intriguant de voir.
De toute façon, ça fait
un c'est des gens qu'on a déjà vu jouer ensemble, déjà. Enfin,
ensemble et tout seul
Non, tout seul, pas beaucoup.
Thurston Moore, solo, en set expérimental, c'est pas courant, quoi.
Non.
C'est pas ce qu'il fait le plus. Ouais. Rinaldo, un peu, mais c'est aussi assez rare. Il développe plus des projets pop, on va dire, en ce moment. C'est des figures un peu importantes qui ont fait des liens entre les musiques expérimentales, les musiques populaires, enfin plus pop, rock, etc. Une ouverture dans laquelle on se retrouve entre les choses très très radicales, puisque Thurston Moore va faire des disques sur RRR, le label le plus brutiste américain qui existe, et des choses que tout le monde connaît, etc. Du coup, c'était une idée. Au début, on s'était dit, tiens, on va leur proposer séparément de jouer dans le festival. Et puis, à un moment donné, on s'est dit qu'on allait mettre le même soir, mais en solo.
Voilà. Très bien. Et du coup, ils partagent l'affiche avec LG aussi ?
Tout à fait. Qui sera en solo aussi ?
LG, avec qui on a déjà travaillé avec Opéra Mort, Reine d'Angleterre. Et puis on avait envie de faire un LG déjà l'année dernière, on voulait lui proposer de jouer à l'église Saint-Merry, et puis c'était une période où il avait plus envie de faire de la musique, de se remettre un petit peu en question, il essayait des nouvelles choses, et puis du coup là, hop, cette année il revient, et on est très, très content de l'accueillir.
La persévérance, ça sert pas à faire jouer que Brigitte Fontaine ou The Dead Sea, ça sert aussi à faire jouer des LG, quoi.
Voilà, c'est aussi important pour nous, de toute façon, mais tout au même niveau, il n'y a pas machin qui est plus important que Bidule, quoi.
Alors c'est sûr que Thurston et Ronaldo, Thurston Moore et Ronaldo, ça fait vachement de liens entre plein de choses, quoi. Où on s'y retrouve beaucoup, c'est que le nom de leur groupe le plus connu et le nom de notre festival commence pareil, et qu'il y a cette histoire de liens, de choses qui, il y a cette capacité d'ouverture quand même que nous on célèbre en général, et puis que c'est quand même des gens comme ça qu'on fait, qu'il y a plein de gens qu'on par leur groupe le plus pop rock, mais quand même qui est quand même un groupe pop rock extrêmement barré, ont pu faire des liens avec John Cage dont on parlait tout à l'heure, quoi. Voilà, enfin c'est des gens ultra importants dans les passerelles, puis que leur musique c'est des putains de musiciens, quoi. Donc c'est quand même super intriguant de pouvoir se dire qu'ils vont jouer l'un à la suite de l'autre. Et puis il y a un truc aussi, faut être clair aussi que à la fois eux deux ou Brigitte Fontaine, c'est ultra généreux de leur part de se pointer dans des festivals comme Sonic Protest aussi.
Oui, voilà. Enfin,
c'est ça aussi,
généreux, je sais pas si c'est le bon mot, ça fait peut-être aussi un peu plaisir, tu vois, pour un artiste de se dire je vais pas aller au festival de je ne sais quoi dans le sud de la France, de dire qu'il y a un festival de qualité qui te demande un festival avec des musiques un petit peu, une programmation un petit peu aventureuse, même si tu t'appelles Brigitte Fontaine et que tu peux jouer pour des milliers, je pense que...
En tout cas, nous, on est vachement contents de les accueillir. Voilà. Ouais. Et que j'y vois quand même une forme de générosité, et que effectivement, quelque part, on peut imaginer qu'ils y retrouvent leur petit à venir nous voir.
Leur petit.
Une forme de descendance.
Voilà. On va écouter un titre ou du moins peut-être un extrait, je sais pas si on a le temps. Franck court à...
Ah, il y a groupe inéral quand même ce soir-là.
Maxime, tu feras attention à la durée. Enfin, il y en a une face en 33 tours et une autre en 45 tours, parce qu'on va passer à un disque 45 tours de groupe Inéran, qui n'était pas prévu donc sur les premiers flyers que nous avons édités. Et c'est une bonne surprise, une petite surprise comme ça.
Et qui est le même soir que Thurston Moore et Eli Rinaldo.
Histoire de faire un virage de plus.
Voilà, c'est une version duo de groupe Inéranais. Ou Inéran, d'ailleurs, même, hein, on dit. Cette soirée se passe à la Parole Errante à Montreuil, qui est un lieu qu'on découvre, enfin, on n'a pas encore fait de soirée là-bas.
Vous découvrez cette année, donc.
Ouais.
Ouais. On y est allé à d'autres occasions. On parlait politique tout à l'heure. C'est un endroit qui est fortement politisé. C'est tenu par Armand Gatti, qui est un dramaturge qui vient du journalisme très engagé, qui accueille aussi bien le festival Ta Parole que la foire à l'autogestion, ou la fête de soutien de la CNT bientôt. Là, voilà. Enfin, il se passe plein de choses comme ça, quand même très orientées. Et puis, bon, manifestement, il y a un mot qui revient, c'est cette histoire de liberté, quand même, à la fois dans les formes musicales ou dans les lieux qu'on a le plaisir de visiter. c'est pas partout à Paris et dans la région qu'on peut être libre avec comment on présente des spectacles sur scène. Il y a des endroits qui sont emblématiques et qui passent une sacrée énergie à bloquer en fait l'accès à la scène, de faire semblant que ça pourrait être possible pour tout le monde. Mais en fait, il y a quand même des gros endroits à Paris où la raison d'être, elle n'est pas là pour permettre à n'importe qui de s'exprimer. Il y a des endroits comme ça en fait, qui verrouillent un petit peu leur scène. C'est tout l'inverse de ce que serait la parole errante, qui s'appelle aussi la Maison de l'Arbre en même temps. C'est déjà un lieu qui a deux noms, ce qui ne facilite pas l'identité ou la visibilité de l'affaire. En tout cas, eux, ils doivent savoir exactement pourquoi. Moi, j'ai cru comprendre, mais je ne suis pas certain que je pourrais l'expliquer. Et nous, on a choisi de l'appeler la parole errante parce que c'est comme ça qu'on a vu le nom le plus souvent répandu. Voilà, c'est un lieu qui a plein de particularités, quoi. Il y a plusieurs lieux qui se ressemblent à Paris, qui peuvent passer des musiques similaires et puis de les faire de la même manière, etc. Cet endroit-là, là-bas, nous a claqué dans les doigts l'année dernière, par exemple. On voulait déjà faire quelque chose là-bas. Et bien, c'est plus instable qu'un. Voilà, c'est un lieu qui vit, qui fermente. Et puis, en tout cas, on est hyper contents, nous, d'y aller pour deux jours, le vendredi 11 et le samedi 12 avril, faire la conclusion de la série de concerts de Sonic Protest.
Inutile de rappeler que pour cette soirée, comme pour celle de Brigitte Fontaine à l'église Saint-Méry le mardi 8, il est fortement conseillé d'acheter une prévente, car ce sont des soirées qui risquent d'être complètes.
Et du coup, on va écouter groupe Inerané tout de suite dans Éther et Crac. Toujours à l'écoute d'Éther et Crac avec Arnaud Rivière, fond de Gango pour le Sonic Protest, et on vient d'écouter groupe Inerané, je sais pas comment on prononce.
Inerané apparemment, c'est pareil, un groupe du Niger qui vient en version duo, donc c'est Bibi Ahmed, le guitariste fondateur du groupe, qui vient en version duo, parce que donc là sur l'enregistrement qu'on a écouté, il y a de la percussion, etc., mais là ce sera un duo de guitare.
Et il nous reste quelques minutes pour parler de la soirée du samedi 12 avril, toujours à la Parole Errante, avec quand même une très très grosse affiche. Vous pouvez nous en parler un petit peu brièvement.
Ça va commencer à 17h, donc il y aura Spectrometer, ce qu'on a entendu en début d'émission. Il y a beaucoup de choses, Terminal Cheesecake dont on parlait tout à l'heure, les Anglais qu'on écoutera peut-être tout à l'heure, le groupe Action Beat qui tourne en ce moment avec l'ancien chanteur de The X, GW Sock.
Ce qui en soi est assez intriguant.
Voilà, Action Beat, groupe assez assez excité avec plusieurs batteries, je sais plus combien de guitares, un peu de basse aussi.
Ah, il joue sur le nombre.
Voilà, c'est, ouais. Ça risque d'être un sacré bazar. Et puis Soc, quoi, on est content de re-entendre Soc avec un groupe à l'énergie comme ça, no wave, post-punk. Donc voilà.
Il y a The Rebel aussi qui joue le même jour.
Il y a The Rebel en version solo, donc voilà, Ben Wallers de Country Teasers qui revient à Paris. The Rustler, c'est un DJ set en fait de Russell Smith, guitariste de Terminal Cheesecake, qui se trouve que depuis qu'il a 13 ans, il collectionne les disques de Rare Groove, Funk, Soul, etc. Donc on s'est dit que comme il venait pour Terminal Cheesecake, il pouvait nous faire quand même écouter quelques disques de sa collection. Salventer, Arnaud.
Salventer qui arrive du Danemark, c'est un quintet. 100%,
féminin.
100% féminin, comme c'est écrit sur le programme, qui fait une musique qui dépote grave, qui est hyper ouverte, qui fait à la fois des références comme ça avec des accents qui vont pouvoir aller quasiment vers le doom, jusqu'aux polyrythmies africaines, voilà, qui est un truc très très ouvert. Deux batteries, saxophone, trombone et violon amplifié, les trois instruments non percussifs amplifiés, avec un chant ultra large, une scène super vivante de Copenhague, là, dont elles sont un peu emblématiques, qui est présentée pour la première fois en France, elles n'ont jamais joué. Donc nous, on est pareil, super content évidemment de les accueillir pour deux dates dans Sonic Protest, une à Creil, une à Paris. Et puis il y a
le
Cercle des Malissimalistes avec Xavier Querelle, qui est assez emblématique aussi de ce qui se passe dans Sonic Protest. Il y a à la fois une frange rock par le Cercle des Malissimalistes, qui est de cette bande qui vient de Bordeaux et autour du label des Potagers Nature, qui font partie des gens, là on parlait des gens de l'Est tout à l'heure, de la grande triple alliance de l'Est, qui sont souvent représentés, international évidemment, qui sont souvent représentés dans Sonic Protest. Il y a aussi ce label bordelais qui s'appelle les Potagers Nature, qu'on affectionne assez particulièrement. Il y a SDZ aussi, par exemple, dans les labels qu'on aime bien et dont on aime bien présenter les artistes. Voilà, il y a quelques endroits comme ça en France où on trouve que c'est important. Enfin, nous, on trouve que c'est important de faire écho à ces choses-là. Le Cercle des Malissimalistes, un groupe des Potagers Nature qui où il y a des membres de
Happy Wheels, France Sauvage
et Chocolat Billy. On le dit en même temps à chaque fois.
Ouais. C'est bien. Stéréo. On est en stéréo, oui.
C'est les Dupont.
Et puis Xavier Querelle, quoi, qui est un membre fondateur de la cellule Metamkin, qui du coup écrit totalement une autre histoire des musiques tordues en France, mais la cellule Metamkin, c'est quand même un groupe phare qui joue partout dans le monde, qui mélange le son et l'image de manière expérimentale avec beaucoup d'analogique. Et la rencontre des deux, pour nous, est quand même quelque chose de super réjouissant, le fait que deux scènes comme ça, qui au départ étaient peut-être pas faites pour se rencontrer, jouent ensemble et puis on les présente à Sonic Protest.
Précisons qu'on profite de rester deux jours à la parole errante pour faire ce qu'on appelle le Sonic Curiosa Market, où on va inviter pas mal de gens à présenter des choses, de la sérigraphie, des livres, des médiators en porcelaine, plein de choses assez étranges. Normalement, Sir Stan Moore ramène une partie de sa collection, puisqu'il fait les éditions Ecstatic Peace Library. Donc voilà, il y aura plein de choses. Venez, le portefeuille plein. Bah oui, sinon vous allez regretter.
Et l'estomac vide.
Voilà.
Car il va aussi à manger.
Et ayez soif aussi parce qu'ils doivent vendre peut-être des trucs à
boire. On finit le festival et on finit l'émission sur le dimanche 13 avril. Ça commence le samedi à 22h. Ça finit le dimanche 13 à 22h pendant les concerts dont on vient de parler. Ça se passe à la Générale. C'est un programme totalement libre et participatif d'une petite télé de proximité qui sera diffusée dans le lieu de la Générale et dans les bars aux alentours, on va dire. Tout ça réellement en hertzien, pas avec des câbles tendus. C'est un programme où n'importe qui pourra s'inscrire à partir de dans deux jours via le site de Sonic Protest. Chacun prend un créneau et peut venir présenter des travaux audio et vidéo. C'est un programme libre participatif. J'espère que vous pourrez venir proposer vos affaires à vous.
SonicProtest.com.
Et bien écoutez, merci à tous les deux. C'était super.
C'était très intense. Et
on rappelle que Sonic Protest, ça se passe du 4 au 13 avril 2014 et qu'il faut absolument venir.
Merci à Franck et Arnaud. Merci et à bientôt dans la prochaine émission de Tarik Rack.